Hola a todos.
Bonjour à tous. Nous avons démarré la session numéro 7, laquelle s'intitule « Exclusion sociale et périurbanisation ». Et donc, je vais présenter la première intervenante. Il s'agit de Lucía Fernández Gavar. Elle est doctorante en architecture de l'Université de la République d'Uruguay en architecture. Et elle a fait sa maîtrise en philosophie à la faculté de Lyon 3 et elle a eu son diplôme d'architecte à l'École supérieure d'architecture de Grenoble. Depuis 10 ans, elle fait partie d'un réseau international d'action et de recherche en économie informelle dans lequel elle travaille avec des organisations de travailleurs de recyclage de tout le monde. Son titre est les disputes autour de l'accès des résidus de Montevideo à l'ère de l'Homo detritus. Donc, je passe la parole. Merci. Donc, pour commencer, pouvoir me trouver aujourd'hui ici avec vous, ça a été quand même une odyssée logistique pour pouvoir arriver ici depuis l'Uruguay avec mes deux filles. Mais justement, je suis là. Je suis très heureuse de pouvoir vous connaître et de trouver cette place de réflexion et surtout pour moi d'apprentissage, puisque plus que d'autres choses, je suis venue apprendre. Je peux avouer que je ne suis pas une lectrice de Lefebvre. Parce que je n'ai pas le temps de lire, c'est pas parce que je n'adhère pas, mais j'ai comme une intuition d'avoir construit quelque chose de Lefebvre à travers ma philosophie, l'architecture et les poubelles. Et c'est sur ce thème que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, je suis très mauvaise pour mettre des titres à mon travail. Cette conférence aurait pu s'appeler autrement, par exemple, les travailleurs de recyclage dans la ville. Le résidu ou les déchets comme un bien commun. Mais alors, j'ai décidé que ce soit comme ça et j'ai eu la chance de me trouver avec Jean-Yves Martin. Et donc, l'élection que j'ai faite du titre semble correcte. Donc, pour commencer, pour pouvoir vous faire entrer en matière, parce que, parler de la poubelle, des poubelles, qui a été mon thème de travail, mon thème de vie depuis 20 ans, je ramène une équatorienne, Fernanda Solis, qui a écrit un livre récemment qui s'appelle « L'écologie politique ». L'écologie politique de la poubelle, où elle cite Marx dans des extraits du Capital pour travailler sur le concept du métabolisme urbain. Les excréments qui sont produits par le métabolisme humain en même temps que les déchets devraient être retournés à la Terre comme un cycle complet de la Terre. Donc, selon Adi Mars dans le Capital sur le tome 3, ceux qui déversent les choses dans le sol font partie d'un tissu qui est autogéré, spontané, comme on veut l'appeler, comme un recyclage non institutionnalisé. Ces ports qui se trouvent là, vous les voyez, ils se trouvent tout près de l'habitat. Et ce sont ces ports qui vont rendre à la terre ce qui est venu de la terre. Et ce n'est pas l'institution de l'État, ce n'est pas le gouvernement qui fait ça. L'histoire de Montevideo et de ses poubelles paraît se centrer justement dans les détritus, sans pouvoir le traiter, sans pouvoir le modifier, en associant particulièrement le résidu en tant que quelque chose qui est visible et son association avec la ville qui essaye de le récupérer comme étant un bien récupérable. En même temps que les pratiques de production de l'espace de cette population qui sont fortement associées à des dynamiques rurales, au milieu rural, sa vitesse dans la ville est très intéressante parce que c'est une clé. Avec des voitures avec des chevaux, leur seule présence dans la ville, c'est ce que Foucault disait dans son quatrième principe d'hétérotopie, une hétérochronie dans laquelle ces sujets se trouvent dans une rupture absolue avec son temps traditionnel, c'est-à-dire qu'il y a un décalage de temps. Ce moyen de transport de l'ère pré-fordiste se présente comme une illusion du procès technique et économique, et c'est pour cette raison que inconsciemment on les rend coupables, on les expulse sous le prétexte de la modernisation de la gestion des résidus, des déchets. Ces sujets qui sont exclus en permanence de la ville en même temps que les déchets, ils sont expulsés de la même façon. On va associer le sujet et le résidu en même temps. Cette personne est expulsée, ils sont expulsés loin et ils se sont consacrés à s'autogérer, à autogérer leurs moyens de transport pour pouvoir recollecter les matériaux récupérables d'une façon plus riche et facile, c'est-à-dire du centre vers l'extérieur. C'est-à-dire ils vont dans les centres où vivent les riches. Donc nous voyons comme ça dans ces images, c'est ce que je suis en train de vous dire et ça fait partie de ma recherche de travail. Donc, ensemble, avec les mêmes outils, ils essayent d'approcher cette brèche centre-périphérie, richesse-pauvreté, au moyen d'une chasse, comme si c'était des chasseurs de poubelles. Cependant, et pour faire rire, cette hétérochronie est un futur de terricide imminent qui pourra être peut-être le sauvetage de ce qui restera sur la Terre, comme Well et le faisait dans son film de Marvel, dans lequel, sur un robot, on le voyait qu'il ramassait tous les déchets. Je dis ça parce que ça peut paraître isolé, mais il y a à peu près une vingtaine de personnes qui sont dans ces Wallis. À Montevideo, se produit plus de 2000 tonnes de résidus par jour, 1200 domiciliaires et 1000 qui viennent des commerces, des entreprises et des institutions, parmi lesquelles des centaines sont déviées de leur but. Et ces personnes se consacrent à récolter, classifier et vendre tout ce qui est recyclé et récupérable. Ceci produit une altération au système de gestion de résidus urbains domiciliaires qui ont généré des tentatives de contrôle de cette situation en ayant un désir de les réinvestir de la part du gouvernement municipal. Ça, je ne l'avais pas sur la version courte, mais pour essayer de territorialiser le thème, quand Lefebvre parlait de la disparition des usines, et maintenant c'est une usine. Pour le cas de recyclage, c'est intéressant à voir à partir d'un graphique. Cette ligne, comme si c'était une ligne fordiste imaginaire, essaye de recréer comment se serait une usine de recyclage. Imaginons, ça c'est les murs, la poubelle arrive, il y a des personnes qui vont séparer, il y a des rubriques, des sections spécifiques, le verre, le plastique, le papier. Cette ligne, effectivement, n'existe pas. Et surtout dans nos pays. Mais elle se trouve fragmentée et dispersée dans un territoire assez vaste, comme la ville de Montevideo, dans la zone sombre, sur la zone côtière où nous, les petits bourgeois, habitons, et c'est nous qui générons ces résidus. Et là, sur ces points roses, ce sont les endroits où il y a les favelas. Dans tous ces endroits-là, c'est où ces personnes amènent toutes les matières pour les séparer, les générer, essayer de leur donner une valeur ajoutée pour les vendre par la suite. Une fois vendus, ceci passe dans un circuit de recyclage aussi dispersé. Il n'y en a pas une usine, mais plusieurs. Il y a 150 centres de recyclage et tout ceci configure cette ville usine de la poubelle que le gouvernement clairement essaye de contrôler parce que ça leur échappe. Ça leur échappe. Donc, quel type de technologie et de procédure se présente comme des instruments d'organisation des conduites dans l'espace urbain concernant les déchets? Pour exemplifier ces processus, nous commencerons par conceptualiser leur matérialité en tant que des dispositifs associés à la pour pouvoir faire un exemple des conflits associés et pouvoir approprier ou s'approprier des résidus. On va avoir comme argument que les systèmes de gestion de résidus sont constitués par des dispositifs qui possèdent d'une manière ou d'autre la capacité de capturer, d'orienter, de déterminer, d'intercepter, de modeler, de contrôler, d'assurer les gestions, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants. Nous parlons alors du mode comme l'action du gouvernement est réellement opérable, c'est-à-dire pragmatique. Aux effets de notre analyse, ce seront les dispositifs qui feront exemple pour les pratiques concrètes de dépossession et de déplacement autour des déchets. À partir d'un regard territorial, les diverses interventions publiques dirigées pour gestionner les résidus peuvent être lues comme des dispositifs pour réguler et normaliser notre relation avec les déchets. Ces dispositifs ont une fonction stratégique et concrète qui se situe dans une situation de pouvoir, une relation de pouvoir. Concernant les poubelles, ces dispositifs normalisent l'espace urbain, leurs liens urbains, en organisant un réseau de relations économiques inégales entre les classificateurs de résidus et les compagnies qui s'enrichissent avec leur recyclage. Dans ce sens, les conteneurs de résidus, c'est-à-dire ce qu'on appelle ici la poubelle, par exemple, opèrent comme un premier échelon entre les sphères publiques et la privée, en les transformant dans ce premier élément physique qui intercepte les classificateurs, les citoyens producteurs de résidus et l'État qui est responsable de leur gestion. Dans le Paris de Haussmann, les premières poubelles furent explicitement reliées avec la disparition du centre de la ville, des pauvres et des petits chiffonniers qui sont sales.
De los pobres y sucios chiffonniers. Louis Chevalier, l'historien, il parlait de classes peligrosas.
Donc, grâce à l'utilisation de ces.
Tan peligrosos para una ciudad como París. Eso lo dijo Haussmann.
Nous pouvons affirmer que le problème de la poubelle dans les villes et leur relation avec l'espace public dénotent des conflits et des relations de pouvoir qui sont visualisés spécialement dans l'espace public et central de la ville. Nous allons consacrer à une analyse du problème de l'appropriation des déchets depuis leur dimension territoriale, en problématisant spécifiquement le mode comme les divers acteurs interagissent sur la production de l'espace urbain et sur l'appropriation des bénéfices générés dans ce territoire. Nous allons poser comme hypothèse et en contreposition avec les pratiques institutionnelles de l'État uruguayen que nous allons voir plus tard, que les poubelles peuvent être comprises comme un bien commun en permettant des échanges entre les différentes classes sociales, en reliant différents espaces et en habilitant la concrétion du droit à la ville par une population qui a un autre mode de vie et qui va circuler dans les marges. Ce qui vraiment intéresse les solutions orientées par la technologie n'est pas le résidu en lui-même, mais l'évacuation du résidu, les processus et les stratégies pour les écarter, les traiter en créant des nouveaux scénarios urbains produits d'un travail de superficie sophistiqué. Nous voyons ici différents courants de ce que David Wilson appelait des courants comme étant des excuses comme quoi le système commence à muter. C'est pour ça que les aspects technologiques du traitement des résidus déploient depuis des siècles des stratégies d'hygiénisme moderne. Récemment, dans les dernières décades, le capital s'est versé vers l'utilisation des résidus en tant qu'un marché nouveau et un marché émergent. Ces photos sont réelles. Bill Clinton et Bill Gates étaient ensemble à New York lors d'un sommet que lui, il organise. Et ils ont eu l'idée de... ils ont dit qu'il fallait s'occuper, qu'il fallait fermer toutes les poubelles du monde. Et justement, 3 ans après, un ami à moi, un ami brésilien qui fait des études de philosophie, disait, nous avons travaillé pendant des années sur une montagne d'or et maintenant qu'eux, ils se sont rendus compte, ils sont venus attraper nos résidus, notre richesse. Dans le cas des résidus, la gestion de cela est devenue une industrie multimillionnaire. La complexité qui est associée au maniement d'une production en augmentation des poubelles représente une opportunité pour la génération de gains et une tendance pour les nouveaux négoces rentables. Spécialement, il y a une parenthèse, quand la Banque mondiale a publié un rapport, le What and Waste, où il faisait des projections, des estimations concernant l'augmentation de la production des résidus qui était présentée comme une excellente information en termes d'accumulation de capital au moyen de privatisation des maniements des poubelles. Vous pouvez imaginer que ceci n'est pas bien reçu par les millions de recyclateurs dans le monde. Là, je suis heureuse puisque le temps, je le gère. En particulier, les 5 dernières années, des milliers de citoyens qui sont consacrés à la classification de résidus ont été impossibilités de s'approprier des matériaux récupérables pour justement travailler dans ma ville qui est Montevideo. Nous verrons les dispositions de la mairie qui permettent ce nouveau scénario au moyen d'une série de dispositifs normatifs et on va problématiser quelques de ces conséquences en faisant appui sur les aspects, les impacts de l'accès des classificateurs à certaines zones de la ville en comprenant que la dialectique entre permanence et circulation de cette population est un des nœuds théoriques pour pouvoir comprendre quelques défis concrets du droit à la ville. Pour éclairer les conflits autour de la poubelle et comment eux ils opèrent sur l'espace, il est important d'analyser la triade des dispositifs de régulation, privatisation et dépossession qui ont affecté négativement les classificateurs de résidus aussi pauvres urbains et leur accès au centre de la ville. La circulation dans le centre de la ville également comme il arrive. Comme il arrive pour quelques citoyens, augmente les chances des liens sociaux et spécialement dans ces cas d'opportunités d'améliorer leurs revenus ou d'obtenir des objets pour l'utilisation personnelle au-delà de ce qu'on peut obtenir par la récollection de résidus domiciliaires ou commerciaux proprement dit. Ils s'approvisionnent aussi de vêtements, de meubles, d'électroménagers ou de comestibles qu'ils utilisent pour leur consommation. Des ventes qui sont vendues dans les foires ou qui permettent le troc. Les dernières années, se sont enregistrées plusieurs interventions publiques qui ont profondément impacté le travail des classificateurs. Le fait de mettre en route ces nouvelles normatives et eux-mêmes ne peuvent pas se déplacer au centre de la ville à la recherche de nouveaux matériaux pour les récupérer. Trois ans après avoir mis en place la loi des l'IME a approuvé une résolution municipale qui établit la régulation du processus de récollection. À travers cette normative, on va habiliter un ensemble d'entreprises privées qui va réaliser la récollection, la manipulation, le transport des déchets en même temps qu'on interdit leur accès aux classificateurs. C'est peut-être la normative qui a pris le plus d'impact concernant la qualité et le type de résidus. Si durant des décades, on avait gagné la confiance de plusieurs milliers de clients dans la ville, cette normative les a appropriés ces résidus en les laissant sans alternative, une alternative quelconque, simplement comme une entité d'entreprise qui va prêter prestataire de services. Le producteur des déchets est obligé de prendre en charge et de payer pour leurs déchets générés, mais c'est un autre acteur, celui qui va tirer parti de cette nouvelle normative. Donc on passe alors d'un lien citoyen de type solidaire, c'est-à-dire on lui donnait le résidu au classificateur en tant que client d'une façon gratuite, à un type de formalisation de type mercantile. On lui paye à une entreprise avec une voiture autorisée pour réaliser la même prise en charge que en majorité, au lieu de recycler et de revenir à la terre, on l'enterre dans une disposition finale. Un an après avoir quitté les lieux spéciaux, Les ramassages spéciaux, la récollation spéciale, pour éliminer petit à petit la circulation des voitures à travers la restriction de son accès à certains quartiers. On a interdit dans les quartiers centraux de les centres-villes l'entrée des classificateurs avec une voiture à cheval en configurant ainsi ces territoires comme des zones d'exclusion. De forme parallèle, parallèlement à cette loi, s'est développé. Donc, on coupe. À partir de l'analyse spatiale, nous verrons comment le capitalisme cache des politiques publiques reproductrices et qui excluent la ville. Cette nouvelle batterie de dispositions, en plus de leur insuffisance dans les termes d'inclusion sociale, implique une profonde transformation dans la manière comme se configure l'accès des travailleurs à l'espace urbain dans leur ville, en les cantonnant à transiter dans la périphérie où ils peuvent se consacrer à vendre des nouvelles plantes centre de tri, et qui m'ont fait rappeler les galeries d'art urbain de Lisbonne, qui étaient des pratiques de capture d'autogestion. C'est ainsi que nous pouvons affirmer que la ville non seulement se néolibérise en privatisant certains maniements des résidus, mais en les bougeant des mains des plus défavorisés, en créant une lutte pour leur appropriation qui n'est pas seulement pour une accumulation de capital, mais pour la dépossession des autres. Hier, Rolando a parlé ça très clairement sur l'accumulation primitive et même sur l'expropriation. Et donc, je n'ose pas rentrer sur ce thème, mais qui était vraiment très, très à point. Ce néo-extractivisme non seulement a lieu dans des réserves naturelles, mais sur des aires indigènes rurales, mais les villes aussi sont objets d'opérations d'extraction menées à bien au moyen d'une dépossession sociale des biens communs à partir de processus comme la gentrification de l'espace ou la privatisation des systèmes comme l'eau, tout ce qui servira. C'est précisément dans les interstices du processus de privatisation des communes, des communs urbains, que doivent se situer des processus actuels clés en des termes de transformation territoriale et politique urbaine. Là, ici, peu importe, mais c'est le centre historique. Ça, c'est le quartier relativement riche, celui-ci aussi. Et c'est ainsi où chaque normative passe, et de l'autre côté, c'est là où ils continuent à vivre et meurent dans les zones informelles. Le défi principal pour nous sera celui de l'expansion de la notion des biens communs, d'un côté en incluant les résidus en tant que tels et en les mettant comme communs, comme a développé récemment dans sa thèse Jérémy et sa patte à Campos Pavrival. Voilà. Je vais écourter ce concept des communs. Je veux les encadrer et ils n'ont rien à voir et ils ont à voir avec l'espace de Lefèvre dont parlait ma camarade, ne sont pas encadrés comme des objets mais comme des processus qui se produisent collectivement, c'est-à-dire selon les dires d'une marxiste excellente, et je vous invite à la lire, qui est Silvia Federici. Nous avons parlé beaucoup de la reproduction de la vie, mais il n'y a eu aucune présentation qui a parlé sur le rôle de la femme par Marx. Donc je ferme la parenthèse. où le maniement n'est pas délégué à une entité extérieure, mais s'exerce directement par ceux qui le produisent. On comprend comme les communs, comme quelque chose qui n'est pas donné, mais comme quelque chose qui doit être produit par une communauté réelle de personnes capables de proposer des finalités communes qui puissent réussir au moyen des actions collectives, selon Federici. De cette façon, nous pouvons comprendre critiquement les relations entre ceux qui produisent le résidu, les citoyens, ou l'améliore à diverses échelles, les classificateurs, ou ceux qui s'approprient pour leur bénéfice d'accumulation, les entreprises de recollection privées, par exemple, en argumentant que ce n'est pas l'objet poubelle, le commun, mais les relations qui puissent le transformer comme tel. Nous voyons ici dans cette phrase de Caillot, qui est ex-président du syndicat des classificateurs, parce qu'on n'arrête pas de les expulser, qui dit « Un voisin m'a appelé à Boussé, un quartier joli, et il m'a offert une télé de 29 pouces. Elle fonctionnait. Si on me met à la rue, les gens ne comprennent pas que nous allons perdre toutes ces opportunités qui ne sont pas quantifiables à niveau économique, mais notre propre qualité de vie et notre relation avec les voisins. » Et maintenant, je finis. La force pour pouvoir comprendre les communes de cette façon, ce centre que la production nous permet de penser d'autres possibilités pour créer des nouvelles formes de reproduction, organisation et régulation collective du maniement de résidus, des déchets. Peut-être finalement, nous arrivons au cœur de Lefèvre sur ce thème dans une claire révolutionnaire utopiste. Ceci est l'esquème final sur Montevideo quand j'ai dû faire ma thèse d'architecte. Et parce que si vous ne savez pas, nous les architectes, nous sommes obligés du point de vue disciplinaire à réaliser, à penser des projets, à penser d'autres possibilités dans l'espace. Avec cette clé, ce que j'avais imaginé il y a longtemps, c'était une montopia, une autre Montevideo, où pour pouvoir territorialiser ces communes, les penser à partir d'une perspective spatiale urbaine impliquerait la production de celui-ci au moyen des réseaux d'acteurs et leur lien étroit avec les déchets. Reconnaître le travail et les contributions de ceux qui ont classifié dans la ville peuvent être affirmés au moyen d'un nouveau type de communalisme décentralisé. Nous chercherons comme ça au moyen d'une reconceptualisation de la poubelle en tant qu'objet social reproduit à partir de l'échange des flux économiques et des personnes dans l'espace. Le comprendre non comme un problème à éviter, mais comme une ressource commune à valorer qui permettrait des échanges entre les différentes classes sociales en habilitant la concrétion du droit à la ville pour une population d'une autre façon qui se trouve actuellement confinée à vivre et à circuler dans les marges ou dans les périphéries.